Bonjour à tous, vous écoutez Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font. Et dans ce format, nous partons à la recherche de profils atypiques, d'entrepreneurs, de créateurs, de sportifs, d'artistes. Tous vont nous raconter leur histoire, leur parcours de vie et leur motivation. Cette nouvelle saison est réalisée en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et bonne écoute. Et dans ce nouvel épisode, je reçois Wilfried Granier, qui est CEO, créateur de Superprof. Salut Wilfried, comment tu vas?
Je suis en pleine forme, merci de me recevoir Valentin.
Je suis ravi de t'avoir avec nous.
Et ben moi pareil.
On a une trentaine de minutes pour
c'est
parler
peu.
Business, entrepreneuriat, Superprof.
Ouais. Ouais.
Je pense que pas mal de monde qui nous écoute et qui désormais nous regarde, parce que cette nouvelle saison est filmée, je pense que pas mal de monde connaît Superprof. Est-ce que tu peux nous pitcher pour commencer le concept de Superprof?
Ah bah avec grand plaisir. Alors écoute, Superprof c'est tout simple, c'est d'un côté une grande communauté de professeurs particuliers, un peu plus de 22 millions de professeurs triés sur le volet à peu près dans tous les domaines, donc une grande communauté de professeurs incroyable, et de l'autre un moteur de recherche qui va permettre aux élèves de trouver le professeur parfait, puisque c'est vraiment ça notre promesse, c'est quand tu viens chez nous tu vas trouver le professeur parfait, c'est-à-dire qui te correspond le mieux pour apprendre à peu près tout ce que tu veux quoi. Et après l'alchimie va être créée entre le prof et l'élève et tu vas vivre un moment fabuleux en te dépassant et en devenant super performant dans ce que tu voulais apprendre.
Tu vas évidemment nous raconter l'aventure entrepreneuriale. On va se focus un petit peu sur les débuts. On aime bien faire ça. Formation ingénieur de base.
Oui, voilà, de base, pléonasme, ingénieur de base.
Ingénieur de base. passage par des cabinets de conseil.
Oui. Un peu. Bah, tu sors de, qu'est-ce que tu fais quand tu sors de, d'école d'ingénieur? Surtout, moi, j'avais fait une dominante informatique. On te dit, bah, tiens, tu vas faire du paramétrage SAP, tu vas faire du conseil chez Accenture et compagnie. Moi, c'est tout ce que je déteste. Donc, j'essaye de bifurquer gentiment vers le conseil chez les Big Five à l'époque. Et donc, je vais chez Ernst & Young, chez KPMG. Là, je fais 4 ans. C'est formidable. Une bonne formation, beaucoup de travail, bien intense. Et, mais par contre, un désir de monter ma première boîte. Quoi. Moi, je rêvais de monter une première boîte depuis que je suis né. Donc, j'ai eu une opportunité, je fais une rencontre et là, je commence à rentrer dans l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai évidemment plus jamais lâché l'affaire avec l'entrepreneuriat. C'est formidable.
Superprof, c'est ton premier projet entrepreneurial ou pas?
Non. C'est, on va dire, mon deuxième gros projet entrepreneurial. Mais c'est par contre le projet de ma vie. C'est la boîte de mes rêves. C'est dans l'éducation, une boîte internationale avec une bande de potes. C'est la boîte parfaite selon mes critères, quoi.
Aujourd'hui, vous êtes combien? Superprof?
Un peu plus de 200. En fait, on est 140 à Paris. OK. Et après, dans les 45 pays où on opère, il y a environ 80 partenaires qui travaillent dans les pays.
Vous avez été classé cette année là récemment, il y a quelques semaines, dans les classements de la French Tech. Est-ce que tu peux nous récapituler un peu ça?
Mais incroyable, écoute, fou. Donc la French Tech FT 120, Next 40, donc les 120 pépites tech de France. On nous dit de candidater, donc on candidate un peu sans trop y croire, parce que c'est quand même, t'es quand même dans la crème de la crème. C'est-à-dire t'as toutes les licornes, t'as tous les gros monstres, Doctolib, Blablacar, parce que les on n'a rien à voir avec eux, qui ont levé des milliards, ou en tout cas des centaines de millions et qui valent des milliards. Et nous, du coup, on postule. Et écoute, je dis, ouais, je reçois un mail et avec une invitation à l'Élysée par le président de la République qui nous dit, on va vous annoncer dans les FT 120. Et donc, non, c'est pas une consécration, mais en tout cas, pour ma maman, c'est une consécration. Son fils a été à l'Élysée rencontrer le président. Mais par contre, non, c'est une super belle reconnaissance, notamment pour les équipes. Parce que du coup, bon, moi, je suis content, mais les équipes, elles sont super fières, effectivement, d'être qu'on soit cité aux côtés des gros monstres de la tech française.
Et comment va monsieur le président?
Ah écoute, il est en pleine forme. Il est en pleine forme, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer, de discuter avec lui, d'échanger avec lui. Alors déjà, première surprise, quand je lui ai dit qu'on était super prof, il m'a dit qu'il connaissait. Donc ça c'est fou déjà. Et ensuite après non, j'ai pu lui expliquer un petit peu ce qu'on faisait et petit moment de solitude parce qu'il me tient la main comme ça, on se serre la main, il me regarde et il me dit il faut qu'on reste en contact, donnez-moi votre carte de visite. Et on n'a jamais de carte de visite chez Superprof depuis le début, évidemment, tu vois. En plus, on essaie d'avoir un impact zéro carbone, donc le papier, c'est oublié. Et donc là, il me répète la question, donc je suis désolé, j'ai pas de carte. Il dit, bon, prenez la carte de mon chef de cabinet, écrivez-lui un mail, il faut qu'on reste en contact, il y a plein de choses à faire avec les profs. Donc voilà, et donc je suis parti avec la carte de son chef de cabinet et je dois lui écrire un gentil mail, quoi. Je suis en train d'y penser.
Et les folles anecdotes, en fait, on a toujours des cartes de visite sur soi. On les file à tout le monde. Moi, je pense que ma mère, elle doit en avoir 15. Ma grand-mère, elle en a. Dès que je vais chez elle, elle en a 15. Alors, mais on a le président, on n'a pas de carte de visite.
Oui. Alors, c'est fou, tu vas à l'Élysée, t'as pas de carte de visite. Mais alors, on n'en a pas du tout. Moi, je n'ai jamais et personne, aucun membre de l'équipe, aucun collaborateur n'a de carte vide chez Superprof.
Ils ont LinkedIn.
Oui, on a un LinkedIn, surtout je t'envoie mon WhatsApp, enfin je te donne mon numéro, enfin tu vois, on est je sais pas, la carte de visite, c'est un truc super has-been, enfin selon pour nous en tout cas, quoi. Donc non, 9 ans que la boîte existe, personne s'est fait une carte de visite, quoi.
Pas de team VRP, carte de visite,
non, ça marche pas. On n'est pas en team VRP, non.
Tu peux nous expliquer un peu le modèle d'affaires de Superprof, parce que nous on aime bien aussi creuser un peu dans ce sens sur comment ça fonctionne initialement. Alors, d'où vient l'idée?
Ouais, bien sûr. Donc, début 2013, moi, si tu veux, je découvre Airbnb. Airbnb, je trouve que c'est vraiment fabuleux. C'est l'idée que j'aurais voulu avoir. C'est-à-dire que c'est, t'arrives à créer de la confiance entre deux individus qui se connaissent pas et qui sont à l'autre bout du monde, et assez de confiance pour que ces deux individus aient envie d'échanger un appartement. Tu vois, c'est quand même incroyable cette confiance créée. Et je me dis, tiens, je vais créer le Airbnb du prof particulier. C'est vraiment ça le pitch de base. En me disant, je vais créer de la confiance parce que, à l'époque, je voulais me remettre à la guitare. Et si tu veux, quand tu veux réapprendre la guitare, comment tu fais? Bah, tu vas sur le Bon Coin. Là, t'as un prof de guitare qui est vendu entre une machine à laver et un camping-car. Tu vas à la boulangerie du coin où potentiellement t'as une petite étiquette avec un prof de guitare. Mais si tu veux, un prof de guitare avec des évaluations, des notes, ses diplômes vérifiés, les anciens avis de ses élèves et compagnie que tu peux contacter, ça existait pas trop. Donc, je me dis, je vais créer ce truc-là. Et pour que tous les profs viennent, bah, du coup, je vais faire gratuit pour les profs. D'accord? Je veux que les profs, ils s'inscrivent gratos chez moi et que, du coup, l'algorithme, après, il soit très exigeant. Et comme ça, je vais leur demander de répondre vite à leurs élèves, de mettre vachement d'informations, de vérifier leur diplôme, d'avoir un temps de réponse, très rapide, d'avoir 100% de temps de réponse à leurs élèves. Donc, tu vois, je vais demander beaucoup de choses à mes professeurs. Mais par contre, ça sera gratuit. Et en revanche, comme mes profs seront fabuleux, eh bien, écoute, les élèves seront prêts à payer quelque chose pour trouver leur professeur.
Ouais.
Avec toujours le principe de tu ne paieras que si ça marche, c'est-à-dire si tu trouves ton prof. Je te jure, cette idée est super évidente aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait ça dans 45 pays, ça fonctionne. On a mis en relation avec un peu plus de 30 millions d'élèves l'année dernière. Mais au début, quand j'expliquais ça, tout le monde me trouvait complètement gueudin. C'est-à-dire que faire payer l'élève alors que c'est le prof qui va gagner de l'argent, non.
Puis on peut se dire, c'est quoi le portefeuille de l'élève? Est-ce qu'il a l'argent? Enfin, on peut se poser ces questions-là.
Ouais, exactement. Bah, toutes les questions qui est, non, c'est pas l'élève de payer, c'est au prof de payer pour avoir un nouveau client. Enfin, tu vois. Et moi, j'ai dit, bah non, ça me paraît pas fou. Le prof, pour qu'on les ait tous, faut pas qu'il paye. Et donc voilà. Donc, je suis parti quand même avec ce modèle économique qui n'a pas changé. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, tu payes quelque chose pour avoir accès au catalogue pendant 30 jours et tu ne paieras que si tu trouves ton professeur. Nous, c'est vraiment ça notre promesse. C'est-à-dire que, si tu trouves pas ton professeur, tu ne paieras rien chez nous.
Donc, il y a le côté, on s'est posé les bonnes questions dès le départ et on a gardé le cap.
Alors, je sais pas si on s'est posé les questions dès le départ. Peut-être que oui, avec un gros coup de bol aussi en même temps. Parce que voilà, mais écoute, non, ça a fonctionné. Et pour la petite anecdote, donc, on lance Superprof depuis la plage de Biarritz. On est en août 2013. Moi, je voulais surtout pas rater la rentrée de septembre parce que septembre, c'est quand même le gros boom. Tout le monde charge des cours en septembre. Donc, il fallait lancer en août. À l'époque, je suis à Biarritz. Donc, je suis sur la plage. Et à un moment, j'étais en train de au téléphone avec mon développeur et je lui dis, bon, ça y est, on va passer live. On passe live. Donc ça fonctionne, ça, je débug machin et tout. Je me rappelle, ma nana était sur la plage, j'ai monté à l'appartement, je redescendais. Enfin voilà, j'étais en pleine mise en prod. Et ce jour-là, on fait 27 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 3 élèves qui ont payé 9 euros pour trouver leur prof. Eh bien, je te jure, j'étais fou de joie. Je me disais, mais en fait, ça marche. Les gens sont vraiment prêts, parce que je ne savais pas. Les gens sont vraiment prêts à payer quelque chose pour trouver leur professeur. Donc 27 euros de chiffre d'affaires, ça m'a galvanisé. Et voilà, et on a continué sur notre lancée.
Aujourd'hui, quand vous allez voir les profs, vous leur tenez quel discours? Est-ce qu'il a changé ce discours par rapport au tout début?
Non.
Vous leur dites quoi? C'est un gain de temps, d'énergie versus de l'argent?
Ouais. Non, le discours n'a pas tellement changé. Le modèle économique n'a pas du tout bougé. C'est-à-dire que, après, par contre, notre algorithme s'est encore plus amélioré. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sévère avec les professeurs. Avant, par exemple, on tolérait qu'un prof réponde en 48 heures. On trouvait que c'était acceptable 48 heures pour une réponse. Non, maintenant, c'est en 6 heures, il a pas répondu, il va être sanctionné, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va descendre dans le moteur, on va lui dire qu'il faut y répondre plus rapidement, parce que aujourd'hui, on est vachement dans l'instant, il faut une réponse super rapide. Au début, c'était plus compliqué pour notifier un professeur qu'il avait un élève. Maintenant, on a une app, on a des SMS, enfin, c'est ultra rapide. Mais non, ça n'a pas changé, en fait. Si tu veux, nous, c'est la qualité de nos professeurs. Vraiment, on a travaillé ce truc-là. Et également, le fait de faire payer l'élève. Moi, ce que j'aime bien, c'est en faisant payer l'élève et en disant à l'élève, explique ton projet pédagogique, parce que si tu veux, il faut qu'il y ait une double acceptation pour que le cours se fasse. Il faut évidemment que l'élève choisisse son prof et que le prof accepte la demande de cours, tu vois. Et nous, on croit vraiment, si tu veux, Valentin, que cette double acceptation fait que il va se passer quelque chose de chouette. Si l'élève, il n'aime pas son prof, ou si le prof, il peut pas blairer son élève, ça va être mauvais. tu vois ce que je veux dire, quand tu choisis pas ton prof ou quand t'as un élève, tu le sens pas, ça marche pas. Or nous justement, on trouve que cette double acceptation fait que bah du coup il va se créer une alchimie. D'un seul coup tu rencontres ton mentor, ton sparring partner, le mec qui va te motiver. T'as choisi par exemple, je sais pas, un jeune, ou t'as choisi un mec de certaines écoles parce que tu dis tiens, c'est l'école que j'ai envie de faire, donc je vais le choisir. Et donc ce choix, ce double choix fait que il se passe des choses extraordinaires chez Superprof.
Donc cette notion de matching aussi qui garantit le bon fonctionnement de la relation aussi.
Oui, ouais, ouais. La double acceptation. C'est-à-dire que l'élève choisit son prof et le prof accepte l'élève. Et le fait aussi que l'élève paye, tu vois, c'est une petite barrière de motivation. C'est-à-dire que j'ai envie d'envoyer à mes professeurs des élèves super motivés.
Ouais.
Si t'es pas prêt déjà à payer 9 euros pour rentrer en contact et que de juste parler avec le prof, c'est que t'es pas vraiment motivé. Donc moi, tous les touristes qui se baladent, qui arrivent, je dis tiens, il a l'air sympa, lui, je lui envoie un message, je vais peut-être prendre des cours. Oh, peut-être pas, attends, je dis pas l'annonce. Non. Là, ils ont bien lu l'annonce, ils ont bien identifié le prof, ils ont bien choisi, ils ont payé un petit quelque chose. Donc toi, c'est une petite barrière à l'entrée aussi qui est bien pour le prof. Il a des élèves tout le temps très motivés.
Sur le gain de motivation, est-ce que tu peux me répondre là-dessus? Mais la période Covid, elle a joué un rôle, je pense, pour le développement. Alors, est-ce qu'il y a eu, t'as senti une recherche, du coup, plus de cours en physique, plus de cours en présentiel? Est-ce que t'as senti certains élèves qui avaient besoin de retrouver
bien sûr.
Relation?
Ouais. Rien ne remplace la motivation que t'as face à face, tu vois. Et donc, alors évidemment, pendant le Covid, on est passé, moi j'avais une croissance de plus 30% sur le, par exemple en France, et hop, on tombe en confinement et d'un seul coup je passe de plus 30 à moins 70, donc on a vraiment une baisse drastique, parce que période de sidération, tout le monde est chez lui et personne ne pense à prendre des cours, tout le monde arrête, tout le monde se met en mode bunker. Et puis en fait après du coup nous on a mis aussi tous nos profs en webcam, si tu veux. Avant personne pouvait prendre des cours de piano par webcam, tu vois. Pendant le Covid, en fait, les profs de piano, ils se sont dit moi si je veux continuer, c'est par webcam. Et donc, ils se sont mis, on les a aidés à s'équiper en logiciel, en matériel, tu vois. Et puis, deux, trois semaines plus tard, en fait, ça a vachement repris parce que, en fait, les gens étaient chez eux. Donc, du coup, ils avaient du temps. Les profs étaient équipés en cours par webcam. Et donc, naturellement, ça a repris la demande de cours. Et l'école à la maison. Nous, on a explosé pour l'école à la maison parce que tous les parents devaient avoir des profs pour les aider à faire l'école à la maison. Évidemment, nous, on avait des profs d'éducation nationale. On en a 300 000 à disposition, qui étaient aussi disponibles puisqu'ils étaient à 100% chez eux. Donc, nous, ça a explosé pendant le Covid. Mais, tu vois, avant le Covid, on faisait 80% des cours en présentiel. Pendant le Covid, 100%. Et après, et là, ça revient, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on fait à peu près 65-70% des cours en présentiel. On n'est pas comme avant, parce que quand même, le webcam, ça a plu à certaines personnes et ils ont donné des cours. Et il y a plein de profs qui font des mix aussi, tu vois. C'est-à-dire qui font 3-4 cours en présentiel et puis quand ils partent en vacances, avant, les cours s'arrêtaient. Aujourd'hui, les gens, ils partent en vacances, ils disent, non, mais je vais te faire ta leçon, je suis en vacances au ski ou t'es en vacances au ski, je vais te faire ta leçon là-bas, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça continue. Mais rien ne remplace effectivement la motivation avec quelqu'un que t'as en face de toi et qui te motive. Et puis, il te voit, il te regarde. Enfin, cette alchimie, elle est vraiment encore plus... tu la ressens beaucoup plus quand t'es en face à face, quoi.
J'ai l'impression qu'il y avait un pain de dingue et que la solution a répondu à ça de manière hyper complète et efficace. Il y a un petit côté Doctolib sur l'usage. On passe en visio, on a un calendrier, on a un outil qui nous gère ça.
Ah, bien sûr.
Est-ce qu'il y a eu aussi la vraie proposition de valeur auprès des profs? Peut-être qu'ils n'en avaient pas conscience de... Ça va être un complément de revenu pour vous aussi. Il y a ce côté-là, vous allez pouvoir faire ce que vous aimez et gagner plus d'argent grâce à ça.
Nous, c'est notre credo, tu sais, vite ta passion, plus jamais tu travailleras ta vie, quoi. Alors c'est marrant, pour la petite anecdote, Valentin, hier on nous a comparé à Doctolib en disant qu'on faisait beaucoup mieux notre travail que Doctolib parce que on envoyait un SMS avant le début de chaque cours. Et alors que Doctolib, on t'envoie pas de SMS avant le truc, il devrait le faire parce que c'est le meilleur rappel, c'est quand même de recevoir un petit SMS juste avant le cours où une heure avant, là c'est bon, j'y vais, quoi. Je n'oublie pas. Bref, mais c'est une petite anecdote parce que Doctolib, c'est quand même un monstre et donc j'oserais pas me comparer à Doctolib. Mais hier, un de nos professeurs nous a dit,
la ref fait toujours plaisir.
Carrément, quoi. Donc c'est ça, j'ose le dire. La mise en relation, si tu veux, et l'alchimie qu'on crée, franchement, avec l'outil, c'est beaucoup plus simple qu'avant, effectivement. C'est-à-dire que le prof, avant, pour booker son cours, c'est des SMS. Après, il allait en un papier. Ouais. Pour le paiement aussi, tu vois. C'est-à-dire que le paiement, globalement, avant, il fallait qu'il réclame l'argent. Puis l'élève, il arrivait. Maman, elle m'a oublié de me donner les sous. Ou j'ai oublié, tu vois. Ça, c'est chiant. Tu vois, il faut que tu demandes des sous et tout. Alors que nous, du coup, il se fait prépayer par la plateforme juste avant l'heure de cours. Il réserve. Hop, il y a le petit SMS de rappel. Mmh. Tu peux lancer le cours par webcam. Tu peux modifier. Tu gères ton planning avec l'outil. Tu te fais prépayer en avance. En plus, on prend pas de commission sur l'heure de cours. Hein. Donc, c'est-à-dire que si tu veux payer 30 euros ton prof, le prof touche vraiment 30 euros. Nous, on n'a pas pris de cut sur l'heure de cours parce que bah, c'est l'élève qui paye. Il paye le pass élève pour avoir un accès.
Lui, il paye son abonnement. Voilà. L'élève, il paye que son pass à lui.
Exactement. Mais le prof ne prend pas. On ne prend pas de commission sur l'heure de cours. Et donc, ouais, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment transformer le métier de prof particulier qui est généralement un petit métier que tu fais à côté, en un vrai métier avec un outil de facturation, un outil de gestion de planning, un outil aussi d'annulation. Le gros pain pour les profs, c'est l'annulation de dernière minute. C'est le prof qui l'élève qui t'appelle le matin et qui dit, ah, je suis malade, je peux pas venir. Ça, eux, comment ils font pour se annuler? Donc, ce qui est génial avec notre outil, c'est que le prof met une politique d'annulation en disant, bah, tiens, voilà, si tu m'annules moins de 24 heures avant, je prends la moitié du cours sera dû. Tu vois des petits trucs comme ça qui font que, du coup, tu, quand on a mis cette politique en place, en fait, t'as plus d'annulation. Parce que l'élève, en fait, bah, soit il se dit, je vais penser à annuler 48 heures à l'avance, comme ça, j'aurai rien à payer. Ou alors, si le jour même, il se dit, bah, c'est pas grave, je me mets un coup de pied aux fesses et je vais faire quand même le cours. C'est trop con, je vais pas payer la moitié. Donc, en fait, cette politique d'annulation, c'est un peu le truc qui rend les gens beaucoup plus réglo,
ouais, bien sûr. Oui, mais t'es obligé de travailler ta proposition de valeur par rapport aux usages et les confronter aussi et parfois les obliger, comme tu dis, avec l'annulation, etc.
Ouais.
Et au moins, t'as un outil du côté des profs qui est ultra complet, ultra clé en main. Et du côté de l'élève, bah, tu peux choisir le bon prof. Puis il y a le côté aussi, je termine là-dessus, sur le côté notation, du coup.
Ouais, bien sûr.
C'est moins subjectif. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui va dire, ah, j'ai un super bon prof de guitare, il est trop cool. Il est trop cool parce que tu savais un peu jouer. Et que
je suis d'accord.
T'aimes bien les profs un peu plus âgés parce que
exactement.
Bah ouais, mais toi t'es plus jeune, tu veux un prof plus jeune. Bah moi je mettrais pas 5 étoiles, je mettrais que 3. Pourquoi? Bah voilà, tu vois. Donc il y a le côté objectif.
Exactement. Tu vois le fait de se repasser le professeur déjà. Effectivement, tu as raison. Il y a un enfant qui avait déjà un petit niveau, qui est content avec son prof. Puis l'autre, en fait, il débute et le prof il est quand même plus à l'aise avec les gens qui donnent un petit.
Oui. Lui c'est quand même plus avec les enfants qui savent jouer.
Admettons. Enfin, il y a tous les scénarios, tu vois, qui existent. Donc c'est pour ça que nous, il est très important, quand tu choisis ton prof, en fait, tu lui expliques ton projet pédagogique. Tu lui dis, alors, parce que nous, c'est ça qu'on dit, on dit, bah, tu veux prendre des cours de guitare, mais explique-nous d'où tu viens, ce que tu fais, pourquoi, comment. Alors j'ai fait, par exemple, ah, bah, j'ai fait 5 ans de conservatoire, mais j'ai abandonné pendant 15 ans, là je me suis acheté ça, j'ai envie de me remettre à ça. Enfin, et le prof, tout de suite, il peut te dire, ah non, moi je veux pas, ou je fais plus, ou mais carrément, quoi, c'est exactement ce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est bien de se passer un prof, évidemment, il y a des profs qui sont bons avec tout le monde, mais nous, c'est ça, le double matching fait que effectivement ça se passe bien, quoi.
Wilfried, est-ce que tu te sens entrepreneur aujourd'hui? Et si oui, quelle définition tu mettrais derrière?
Je crois que je me sens entrepreneur depuis que je suis né, tu vois. La définition, c'est l'envie de liberté. C'est la seule définition que j'aurais. C'est-à-dire vraiment, c'est la liberté absolue, c'est de vivre en pleine autonomie, vivre de ses clients, avoir sa rémunération qui est complètement indexée avec le gain et le chiffre d'affaires que tu fais autour de ta boîte. Voilà, c'est totalement libre. Donc, c'est ça la définition pour moi d'un entrepreneur. Et si je peux me permettre une réflexion, c'est la plus belle chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est des rencontres, c'est une aventure, c'est fabriquer un truc avec des potes, une bande de copains autour d'un projet, c'est avoir des galères, mais ensemble, c'est l'aventure. Donc, vraiment, je le souhaite à tout le monde. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment que l'entrepreneuriat est un peu délaissé? Et qu'on favorise plutôt le salariat? Est-ce que il y a un côté, on n'est pas forcément habitué à gérer ses projets pro, son argent, son côté financier, que du coup, alors, le salarié est peut-être un peu plus encouragé?
Je n'ai aucun avis sur la question. J'ai plutôt le sentiment inverse, Valentin. Je dirais que moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, tu vois, il y a une vingtaine d'années, bah, quand tu fais une école d'ingé, d'ailleurs, tu vois, j'ai fait une école d'ingé, qu'est-ce que je fais après? Tu rentres dans le salariat. Parce que, va expliquer à tes parents que t'as fait une école, que t'as fait une maths sup, maths spé pour à la fin te lancer dans un projet complètement chelou. Non, t'as des codes sociaux. Là, aujourd'hui, moi, je trouve que je vois plus de jeunes qui, à peine sortis d'école, se lancent, tu vois. Donc, je peux pas te dire. Après, peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, il y a eu peut-être un engouement pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je suis né, moi, quand j'étais en école d'ingé, tu vois, je voyais Marc Simoncini qui lançait Mythique, je voyais plein de gens comme ça qui Xavier Niel et tout. C'est quand même des gens qui me faisaient rêver, mais il y en avait quand même assez peu. Aujourd'hui, t'en as plein des entrepreneuriats à succès. On parlait de la French Tech, mais tu vois, il y a beaucoup de communication autour de l'entrepreneuriat, les levées de fonds. Moi, si tu veux, maintenant, les fonds, ils sont identifiés. Tout le monde tape levée de fonds et t'as tout le monde qui sort. Quand j'ai commencé, lever des fonds, mais je savais même pas comment faire pour trouver le début d'un euro. Enfin, tu vois, donc j'ai l'impression que ça s'est plus démocratisé. Après, peut-être qu'après la période Covid, du coup, les gens ont besoin peut-être un petit peu plus de confort, de salariat. C'est rassurant, le salariat. C'est-à-dire que t'as ton contrat, tu peux acheter un appartement, tu peux faire des crédits, tu vois, une espèce de truc comme ça. Peut-être que les gens... moi, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, ça n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui, en tout cas.
Je te pose la question parce que c'est notre question French Tech du podcast. Est-ce que tu trouves aujourd'hui que le paysage entrepreneuriat français, il favorise les projets? Est-ce que tu sens qu'il y a un entrepreneuriat made in France? Est-ce qu'il y a une patte française? Est-ce qu'il y a une manière de faire à la française? Est-ce qu'il y a une manière d'accompagner les projets à la française? Est-ce que tu sens, par rapport à ce que tu as dit que Superprof était présent à l'étranger, j'imagine que tu as un avis sur les autres pays, est-ce que tu sens que le territoire français, c'est un vrai terreau d'entrepreneuriat?
Oui, je pense que le territoire français, c'est un vrai terreau d'entrepreneuriat. Je pense que pour avoir fait les tours de l'Europe, on est très bien positionné. Franchement, en termes de techno, en termes d'ingénieurs et tout. Il reste les États-Unis quand même. Les États-Unis, c'est NBA. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pu me confronter un peu à d'autres concurrents aux États-Unis, au montant. Enfin, tout est multiplié par 10. Tu vois, c'est incroyable. Donc vraiment, non, il y a quand même des compétences quand même, qui sont quand même bien plus fortes. Mais après, c'est un plus gros pays, plus riche et compagnie. Mais par contre, en Europe, en tout cas, effectivement, non, la France est un super vivier, des entrepreneurs fabuleux. Après, moi, ce que je pourrais regretter, c'est que il y a l'apologie des levées de fonds. C'est-à-dire que on lève des fonds, tout le monde lève des fonds. Et en fait, c'est vrai que quand tu lèves des fonds, t'es potentiellement une proie pour des acteurs qui sont très très riches. Donc, globalement les étrangers et qui pourraient acheter les boîtes. Tu vois, moi j'ai vu des entrepreneurs monter des boîtes à réussir à consolider l'Europe et se faire racheter par un Américain parce qu'il arrive et qu'il met 300 millions d'euros sur la table et que le game est plié. Ouais. Donc tu vois, il y a des choses comme ça. Moi je pense que si tu veux, d'ailleurs c'est ce que je disais à notre président de la République quand je lui ai parlé, je dis écoutez, imaginez quand même qu'on a fait une solution aujourd'hui qui permet à des millions de personne dans le monde de trouver le professeur, et que cette solution elle est française, donc c'est quand même beau dans l'éducation, et en plus qu'on n'a pas levé un centime depuis la création. Donc, enfin, je disais, vous parlez de levée de fonds, c'est très très bien, mais on peut aussi faire des choses incroyables sans argent, et en tout cas en vivant, en étant bootstrappé, c'est-à-dire en vivant de ses clients. Ouais. Et je pense que, et d'ailleurs, je suis un des seuls du FT 120 à ne pas avoir levé, que Superprof n'a pas levé, mais c'est quelque chose, vraiment, on peut y arriver en France. En fait, depuis la France, on peut créer une boîte qui vit ses clients, qui lance à l'international, et du coup, qui n'est pas du tout une proie pour les Américains ou pour les Chinois qui pourraient avoir envie de nous acheter, quoi.
Oui. Puis ça varie aussi en fonction du secteur. Il y a des boîtes qui ont besoin, quand on parle de tech ou de deep tech ou autre, qui ont besoin de faire de la R&D, justement, d'en parler. Ils ont besoin de ces financements, et d'autres boîtes qui, effectivement, sont peut-être plus saines, avec un départ en croissance organique, sans lever, mais avec peut-être une stratégie un peu plus travaillée, avec des gens un peu plus concentrés sur l'objectif premier, le deuxième, le troisième.
Ah non, mais écoute. Moi, Superprof, j'ai lancé, donc effectivement, bootstrappé avec les fonds, très focus, effectivement, déjà sur la frugalité, c'est-à-dire qu'on fait très attention à nos dépenses, tu vois, parce qu'on gagne peu d'argent. Tout ce qu'on gagnait, c'est quand on dépense quelque chose, quand tu le gagnes, c'est pas du tout la même implication. C'est-à-dire que quand c'est ton argent, tu fais 10 fois plus gaffe, parce que quand c'est pas le tien, bon.
Ça peut être un frein aussi. Là, on parle du côté positif, et moi, je suis assez d'accord avec toi sur, c'est notre argent, on sait ce qu'on en fait, si on l'investit, il faut que ce soit réfléchi, acté, etc. Et en même temps, ça peut aussi être un risque de se dire, je connais mes fonds, ils sont limités, du coup, ça ne le lance pas, ou on attend un peu, ou on améliore un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi frein et auto-censure?
Alors, ça dépend du tempérament du chef d'entreprise. Nous, on a été extrêmement punk et rock'n'roll, c'est-à-dire qu'on a, on a vraiment lancé de voix. Il y a même peu de boîtes, même des boîtes qu'on levait, qui sont présentes dans autant de pays que nous. Nous, on a cramé du budget de façon folle. C'est-à-dire que comme on faisait beaucoup de croissance et que la croissance résout tous les problèmes, en fait, on avait une énorme confiance en nous. Et donc, on dépensait. On a ouvert des pays à fond perdu. Les États-Unis, moi, j'ai mis 6 ans avant de gagner $1. On dépensait 300 000 euros par an aux États-Unis. Aucun fonds n'aurait suivi ce délire parce que c'est toi, et on l'a fait aussi vachement de pays avec le cœur, parce que c'est les pays qui nous aient kiffé. Moi, j'ai lancé le deuxième pays que je lance, c'est l'Espagne. Et pourquoi l'Espagne? Parce que moi, j'adorais partir, si tu veux, à Barcelone ou à Ibiza. Rationnellement, c'est pas le pays qui va te faire gagner le plus d'argent. Il vaudrait mieux lancer, tu vois, le UK ou l'Allemagne, qui sont quand même plus riches que l'Espagne. Mais disons, pour dire que non, c'est pas du tout un frein. Ça dépend de la boîte, ça dépend de tout, mais tu vois, je lance Superprof au début, et puis à un moment, je vois des fonds d'investissement, puis voilà, il y a un mec qui me dit quand même, mais pourquoi tu fais pas tout gratuit pour Superprof? C'est-à-dire que pour lui, il me disait, tu lances une communauté, tu recrutes massivement des profs et des élèves, tu vois, tu fais un énorme monstre social, et après, tu monétises. Et je te jure que pour lui, ça semblait aberrant que je fasse payer l'élève 9 euros l'accès. Et moi, j'ai pas su quoi lui répondre à part, j'ai fait payer pour pouvoir payer mon loyer, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, mais il y a beaucoup de gens qui pensent, en fait, le VFO, ouais, on fait tout gratuit. Et puis, un jour, on trouvera un modèle. Mais déjà, le tout gratuit, ça aurait été complètement nul parce que ce que je t'expliquais au début, c'est que nous, on pense que, nos profs, ils vont être contactés par des élèves, mais motivés. Ouais. Si tu fais pas de barrière à l'entrée, si n'importe qui peut contacter n'importe qui, tu vas te retrouver avec des gens qui se baladent sur le site, qui trouvent cette prof d'anglais sympathique et qui vont lui envoyer un message. Mais ils sont pas du tout en mode recherche vraiment actif de cours.
Tu perds totalement la valeur de l'offre et de ce que tu proposes.
Oui, oui. Donc, tu vois, donc, il y a des gens quand même qui pensent encore, on va faire gratuit, on va lever des fonds. Et donc, pour répondre à ta question, non, moi, je pense que j'ai jamais été aussi vite. Blablacar, ils ont levé, je sais pas combien, ils sont dans 21 pays. Ils sont la moitié de nos pays. Tu vois, je discutais avec Frédéric Manzera, il me disait, on s'est vraiment lancé. Aujourd'hui, on est dans plus de 20 pays. Mais ils ont 5 ans de plus que nous. Mmh. Ils sont dans la moitié des pays que nous. Parce que nous, je te dis, on a attaqué l'Afrique. Par exemple, l'Afrique, c'est à fond perdu. Là, aujourd'hui, j'opère en Nigeria, en Afrique du Sud, parce que c'est des pays qui nous plaisent, parce que il y a une grosse population, parce que ça tire la croissance. Mais c'est des pays où on gagne rien. Et ça, tu vois, c'est pas entendable pour des fonds. Donc, si tu veux aller plus vite, être partout sur Terre, être, tu vois, parce que nous, notre mission, c'est d'être dans tous les pays du monde. Eh bien, je pense que il faut être punk, c'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur de se mettre dans le rouge. Moi, j'ai vécu à découvert, si tu veux. Mon compte était à découvert, notre compte. Alors plus maintenant, parce que ça y est, on a atteint une taille critique. Mais je sais pas, les 7 premières années, moi, j'étais jusqu'à moins 500 000 sur mon compte bancaire. Parce que c'était le maximum découvert autorisé que les banques nous a. Avec de l'endettement, on s'est endetté, on a racheté plein de boîtes. Enfin, on a été jusqu'aux limites, mais taquet. Mais parce que la croissance faisait que la confiance, on savait que l'argent arrivait, et puis voilà. Mais donc ça nous a pas du tout freiné. Moi, au contraire, je pense que ne pas lever, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite et puis de faire des choix de cœur et puis surtout de pas avoir de compte à rendre et puis de travailler en totale liberté. Moi, je suis on va dire, j'ai un espèce de côté artiste un peu où j'ai envie de tenter des trucs. Moi, si on me brimait par des bords tous les 3 mois en me disant « Ah, pourquoi ?» et devoir justifier mes choix, je sais que c'est ça qu'il faut faire parce que c'est rationnel et compagnie. Mais pour faire une boîte de ouf, faut un peu de folie. Donc, bref, voilà pour répondre à ta question. Excuse-moi, j'ai fait beaucoup de digressions.
J'adore le côté liberté. Et ça revient plusieurs fois depuis le début de l'épisode et je trouve que c'est hyper intéressant. Et tu reconnais aussi le fait que, effectivement, les investisseurs, ça peut rassurer. Il y a de l'argent qui rentre, effectivement. C'est plus concret, comme tu dis, plus rationnel. Mais il y a le côté aussi, c'est un peu moins de liberté, un peu plus les mains liées. Cette notion de liberté, j'ai l'impression qu'elle est importante pour toi.
Absolument.
Moi, je la lis souvent à cette notion du risque aussi, parce que c'est quand on prend des risques qu'on peut s'offrir parfois plus de liberté aussi, on sait pas que... Et en même temps, quand tu risques quelque chose, tu sais que tu risques quelque chose, donc quand tu y arrives, c'est encore plus beau, et tu te sens encore plus libre, plus puissant. Cette notion de risque-là, comment toi, tu la gère? Est-ce que t'as un rapport au risque en tant qu'entrepreneur qui est spécifique?
Moi, je ne vois pas ça comme un risque. C'est-à-dire que le risque, ça serait de stagner, ne pas progresser. Moi, ce que je veux, c'est faire une grosse croissance chaque année, c'est doubler les équipes, c'est attaquer plein de pays, c'est changer tout casser. Parce que pour faire de la croissance, faut tout repenser, tout casser, tous les process. Pour moi, le risque, ça serait effectivement de dire, bon, c'est bien, ma boîte, là, on va faire 30 millions cette année. Enfin, on a fait 30 millions l'année dernière, on va faire 45 à peu près cette année. C'est dire, bon, voilà, c'est bien, j'ai fait une boîte, je vais réduire mes coûts, je vais gagner du dividende, je vais être tranquille. Cette notion de, non, moi, je veux faire une boîte exceptionnelle, je veux vivre une aventure incroyable. Et donc, du coup, faut prendre des risques. Mais du coup, en fait, j'avais un ami qui me disait, le risque, c'est comme un muscle, en fait. C'est-à-dire que plus t'en fais, plus tu prends des risques, et plus t'es fort et moins t'as peur d'en faire, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça s'entraîne, le risque. C'est-à-dire que la prise de risque, c'est quelque chose qu'il faut entraîner. Et donc, au début, tu prends un risque à 1000 euros, ça te fait peur. Et puis après, t'en prends à 10 000, à 100 000. Puis après, les risques à 1000 euros, c'est, tu les traites comme, très facilement, très rapidement. Et donc voilà, c'est un entraînement. Et moi, je suis habitué à prendre des risques, à tout remettre en question, même quitte à tout perdre. Mais je crois en ma bonne étoile et surtout, rien n'est grave. Tout se reconstruit. Ce qui serait grave, c'est de ne pas prendre de risques, justement. Donc voilà.
Tu as déclaré dans un article de Forbes, il n'y a pas si longtemps, que tu avais créé la boîte de tes rêves.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la boîte de CRS? C'est le job que tu fais tous les jours? C'est l'état d'esprit? C'est le niveau de vie? C'est quoi?
C'est tout, c'est tout. La boîte de mes rêves, ça résume bien. C'est-à-dire que j'ai pas d'autre nom. Si tu veux, moi, je suis fils d'enseignant. Alors, j'ai sponsorisé toute mon école d'ingénieur en donnant des cours particuliers. Donc, j'adore le métier de prof particulier. En prépa, j'ai été mentoré par un prof de physique, Monsieur Evrard, s'il nous entend, je l'embrasse. Là, il m'a galvanisé. C'est-à-dire que c'est le mec qui m'a donné envie de travailler, qui m'a dépassé. Je me rappelle. Donc, un prof a changé ma vie. Donc, je bosse dans un milieu comme ça. L'éducation, pour moi, je vais pas plagier ce qu'a dit un grand homme, mais l'éducation, c'est ça qui a le plus d'impact sur Terre. C'est-à-dire que si tout le monde était plus éduqué, tout le monde serait plus ouvert à l'autre, tout le monde serait plus tolérant. Si tu veux, c'est l'obscurantisme et c'est le manque d'éducation et de connaissances qui rend les gens stupides et, tu vois, et enfermés vers eux-mêmes. Donc l'éducation, pour moi, a vraiment un impact sur le monde. Donc je bosse dans un truc à impact. Et en plus, avec une bande de potes. C'est-à-dire que moi, mon équipe, c'est la première raison qui me fait lever le matin, c'est de retrouver mes potes. C'est-à-dire qu'on est... C'est mon DG, c'est mon premier collaborateur, mon premier salarié. Mon directeur artistique, aujourd'hui, celui qui fait tout le design de Superprof, le chef de produit, c'est le freelance que j'avais recruté qui était en stage quand j'ai lancé la première maquette. Le CTO aujourd'hui, bah, tu vois, c'est une histoire de potes. Donc, on est tous ensemble depuis le début. On est super débrouillards. On est capable de tout faire. Enfin, tu vois, et on est parti en vacances ensemble. On a fait des séminaires ensemble. On fait des soirs ensemble. Enfin, cette bande de potes-là, elle est plus forte que tout et on est indestructible. Et donc, ouais, tu vois, boîte dans l'éducation, dans la tech, internationale, avec une bande de potes. C'est le métier de rêve. Enfin, tu vois, je crois que, non, on a fabriqué quelque chose de fabuleux, quoi.
On a l'impression que tout te sourit, là, dans ce que tu nous racontes. C'est quoi le secret? Est-ce qu'il y a une sauce magique? Est-ce que, il y a une recette? Oui. On a envie de croquer un peu aussi, en vrai. Ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ont envie de savoir.
Ben non, mais la recette, c'est simple. Bon, déjà, je suis né comme ça. Moi, j'ai un tempérament très optimiste. Mais c'est vrai que j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est-à-dire que je me réveille le matin, je suis content, il fait beau, je vais retrouver mes potes pour aller bosser. Ah ouais, merde, hier, c'était la merde, on a fait ci, ça a déconné, on a galéré, j'ai eu ça. J'ai déjà oublié, en fait, tu vois. Parce que je ne retiens pas très bien. Moi, les problèmes, même des fois on me demande c'est quoi les pires trucs et tout, mais j'ai presque du mal à me rappeler, alors qu'on en a eu plein, hein. On a eu des moments vraiment de stress. Bon, plusieurs fois on a cru qu'on avait plié la boîte, hein.
T'en as un en tête?
Ouais, bah, si tu veux, des serveurs qui crament, des plus de chiffres d'affaires pendant 24 heures, alors que je partais en Espagne racheter une boîte. Donc je suis à 7 heures dans l'avion et je pars pour racheter une boîte, alors que le site va pas marcher pendant toute la journée. Bon là, c'est des petits stress. Des moments où effectivement on a tellement plus de sous que les huissiers débarquent. Et je me rappelle, hein, moi je vais payer chez les huissiers et on est à moins 198 000 et on a un découvert autorisé de 200 000. Et je dois payer un truc, genre 1000 euros, je me rappelle plus très bien. Mais quand je fais le chèque, que je donne l'huissier, elle dit, bon, de toute façon, vous avez fermé la boîte, non? Elle est en dépôt de bilan, là. Vous avez plus que 1000 euros de découvert autorisé, quoi. Bon. Mais tu vois, je te raconte ça, mais c'est des moments qui peuvent être super stressants, mais pour autant, bah, ah non, le lendemain, on repartait au charbon, hein. Jeu de mots.
On va y venir. Tu m'emboîtes le pas et évidemment qu'on va y venir.
Enfin bref, donc voilà. Donc non, pas de grosses galères, pas de trucs qui m'ont vraiment traumatisé. Tu vois, l'optimisme. Moi, tous les matins, je me retrouve avec mes potes et ça me suffit. Tu vois, c'est parfait.
Je suis obligé de continuer là-dessus, Wilfried, hein, mais il va falloir que tu nous donnes ta définition du mot charbon. C'est le nom de ce format. Il faut que tu nous définisses ce que ça veut dire qu'aller charbonner.
Ah, bah, j'imagine que la définition première, c'est d'aller travailler, quoi. Mais je dirais, pour twister un peu le côté je vais aller juste bosser, je pense que charbonner, ça serait un truc du genre j'y vais, ça va être dur, mais je vais kiffer à la fin, quoi.
Une sorte de graal, en tout cas de récompense à la fin, ouais. Où c'est plus la finalité et on sait pourquoi on le fait.
C'est un mélange des deux, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, mais c'est qu'à la fin on a bien kiffé. Tu sais, je veux dire, moi j'ai quand même un amour du travail bien fait. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose et que tu le fais bien et que t'as réussi, ça a été dur, mais à la fin, je trouve que c'est assez kiffant de voir le résultat et d'avoir une espèce de fierté, quoi. Donc, je dirais, voilà, le mot charbonner, c'est on va y aller, ça va être dur, mais ça vaut le coup.
Et c'est assez drôle ce que tu nous dis là, le travail bien fait, c'était dans le script de départ quand on a écrit ce format.
Ah oui?
On avait fait tout un script sur les valeurs du format, qu'est-ce qu'on voulait présenter dans ce podcast, et on avait dit... On commençait comme un retour aux valeurs simples mais importantes du travail bien fait. Oui. Et c'est comme ça qu'on a trouvé le nom Charbon. Et je trouve ça assez drôle que tu rebondisses là-dessus. On se projette un peu. Allez. Là, c'était une très belle année 2023, French Tech, classement, on adore. C'est quoi les enjeux pour l'année prochaine et les 5 années qui arrivent? Tu m'as parlé évidemment de l'international avec d'autres pays.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des projets franco-français qui ont un lien peut-être avec l'État aussi? Est-ce qu'il y a tu m'as parlé de se rapprocher du gouvernement, enfin de l'État. Est-ce qu'il y a un truc qui va se passer avec eux? Alors, c'est quoi les projets qui arrivent?
Alors, il y a 1000 projets, il y en a 1000.
Alors, je sais pas si on aura le temps, mais faisons au moins 900.
Projet numéro 1. Non, globalement, pour les synthétiser, parce que ces 1000 projets sont tournent autour de plusieurs grandes valeurs qui sont iconiques de chez Superprof. Améliorer la qualité de nos professeurs. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir les top profs dans tous les pays, dans tous les domaines, dans toutes les matières. Donc ça, c'est un travail de titan. Alors déjà, il faut qu'ils aient des plus belles annonces, des plus beaux profils. On fait des interviews, on les rencontre, on a un programme ambassadeur. Enfin, vraiment qu'il y ait la crème de la crème et qu'ils répondent super rapidement. Ensuite, après, un deuxième truc, c'est les aider vraiment à en faire un métier. C'est-à-dire que aujourd'hui, nos outils sont pas mal, mais on améliore encore l'outil. Et notre outil, il marche très bien aujourd'hui en France et en Europe, mais il y a des pays où ça marche pas très bien parce que les systèmes de paiement, les systèmes bancaires, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, on a la chance en Europe d'avoir, mais je te parlais de l'Afrique. L'Afrique, c'est compliqué, tu vois, d'opérer comme ça. Mais pourtant, il faut le faire. Ensuite, après, l'international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est présent dans 45 pays. On a encore au moins, au bas mot, encore une centaine de pays à faire. Et il y a deux pays, moi, que je veux faire absolument cette année, qui sont des Himalaya Fastener. Enfin, non. Surtout un, c'est la Chine. La Chine, voilà, on veut attaquer la Chine parce que c'est un magnifique marché. On croit vraiment qu'il faut qu'il y ait un opérateur qui mette en relation les gens là-bas pour apprendre autour d'un bon professeur. Et l'Israël. Et ces deux pays-là, on les a pas encore lancés parce qu'il y a un vrai sujet de design. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a un design qui est, on va dire, européano-americano style, tu vois, Airbnb style, tu vois, des sites qu'on connaît. En Chine, par exemple, ils sont pas du tout comme ça, les sites. Nous, on le met en Chine, ouais. Ça marche pas. Airbnb, ça marche pas du tout en Chine aussi, parce qu'ils ont, ils sont pas adaptés bon design. Ouais. Donc, il y a un vrai sujet de design aussi. Mais voilà, la qualité de nos professeurs fait en sorte que les gens puissent encore plus facilement, simplement, prendre des cours avec un super outil et attaquer tous les pays. Et attends, je t'en dis un petit dernier parce que c'est aussi un axe qu'on lance cette année. C'est, on va offrir une offre B2B parce que c'est bien que les particuliers y payent pour avoir accès au catalogue de professeurs, mais pourquoi pas faire payer l'entreprise qui donne accès au catalogue aux collaborateurs. Parce que c'est quand même un des plus beaux cadeaux que tu puisses offrir à tes collaborateurs, c'est de dire, tenez, regardez, vous avez accès à la plateforme et lorsque vous voulez un cours de maths, un cours de guitare, un cours de sport ou une formation professionnelle, vous avez accès aux meilleurs profs du monde.
Oui, puis il y a le côté un peu plus quali que les offres de formation. Tu sais très bien, on se fait appeler tous les jours.
Hein,
donc il y a aussi la promesse.
Arnaque-land. C'est un peu arnaque-land ce truc. Hein. Et puis on ne sait pas qui sont les organismes derrière. Ouais. Et puis c'est des profs qui sont payés au lance-pierre. Non, c'est pas incroyable. D'ailleurs, on m'a souvent demandé si je voulais être dans le CPS, si je voulais être éligible. J'ai toujours dit ah non mais jamais quoi. Nous c'est du coach. Tu viens chercher du prof de qualité, du temps de qualité. Tu dois payer, c'est un fait. Mais tu le fais pas sponsoriser par un truc où enfin il y a trop d'arnaque.
Et puis c'est le bon timing, dans le sens où. Le B2C fonctionne.
Oui.
Bien, de ce que je comprends.
Ça commence.
À terme, le B2B est intéressant aussi parce que la demande est là aussi.
Mais moi, pendant le Covid, j'avais des grosses sociétés qui m'appelaient pour me dire, est-ce que vous pouvez trouver des professeurs pour nos collaborateurs? Ils sont en télétravail. Ils en peuvent plus de devoir faire l'école à la maison. Trouvez-nous des profs, quoi. Et j'avais pas vraiment d'offres, quoi. Donc, et des boîtes qui comptent des dizaines de milliers de personnes en France, quoi.
Aujourd'hui, si tu avais un conseil, je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du sud d'un coup, si tu avais un conseil pour quelqu'un qui avait envie de se lancer, tu sais, on aime bien aussi essayer de craquer un peu, c'est pas forcément le conseil le plus ultime, mais peut-être un tips applicable sur une démarche, sur un état d'esprit, sur le premier pas ou finaliser son idée, la lancer.
Ouais, alors bon, bah, le truc que je dis toujours quand on me demande de trouver, alors moi j'ai aucun conseil hein, parce que les conseils que je donnerais, ils marchent pour moi, ils marchent pas pour les autres. C'est toujours la même chose. Si j'écoutais un de mes conseils, je pourrais me l'appliquer et me dire ah ça fonctionne, mais parce que je suis comme ça. Mais non, ce que j'aime bien dire, reprendre un petit peu la phrase d'un célèbre héros de cinéma, c'est oublie t'as aucune chance, vas-y fonce. Parce que ça résume tout en fait. Les gens se mettent plein de barrières mentales pour faire des choses. Et en fait, au bout d'un moment, non, tu vas y arriver. En fait, vas-y avec tout ton cœur et toute ta naïveté, et tu vas voir, tu vas tout défoncer quoi. Parce que en fait, c'est l'amour d'un projet ou l'envie de faire quelque chose, c'est irrésistible. Tu vois, si tu vas en ayant un petit peu peur avec machin tout, non. Donc oublie que t'as aucune chance. Potentiellement, effectivement, t'es peut-être pas la bonne personne pour le faire, mais vas-y fonce. Tu vas voir, ça va fonctionner quoi.
Donc le côté on met ses chances de son côté, mais on y va quand même quoi qu'il arrive.
Et ouais, exactement. Et avec le cœur surtout. Tu vois, avec la motivation et l'envie. Et tu verras les murs qui vont se mettre devant toi, mais tu vas les défoncer quoi. Tu vas pas apprendre à les contourner, mais tu vas les défoncer. Et pour rebondir un peu sur ce truc-là, lancez-vous en fait. En fait, il faut se lancer au plus vite. C'est en se lançant qu'on apprend. C'est on apprend à marcher en essayant. Tu vois, bah là c'est la même chose. C'est-à-dire que rien ne sert d'attendre une idée incroyable. Rien ne sert d'attendre l'associé exceptionnel qui va être complémentaire, machin et tout. Tout le monde attend un truc. En fait, non. Démarre et tu verras bien ce qui se passe. Et ton idée de départ, de toute façon, elle va être complètement modifiée parce que tu vas avoir des premiers retours clients, parce que tu vas comprendre d'autres choses. Tout va changer. Donc, lance-toi et puis tu verras bien quoi. Et fais-le avec le cœur. Et surtout, si tu le fais avec le cœur, je te jure, ça va fonctionner. Je te promets quoi.
Et je reviens sur le mot que tu m'as donné, qui était celui de liberté. J'aimerais bien finir là-dessus, du coup, sur le, ce que ça peut t'apporter. Tu m'as parlé de plaisir, tu m'as parlé de bonheur, tu m'as parlé de liberté. Ça fait plaisir quand on fait un podcast sur l'entrepreneuriat qui est à côté aussi charbon où c'est un peu plus dur. Mais je trouve que c'est vraiment efficace et ça fait du bien d'entendre ces mots-là aussi quand on parle d'entrepreneuriat. Wilfried, on arrive à la fin de cet épisode. Merci
rapide,
à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Merci,
je suis ravi.
Tous.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à French Tech Grand Paris et French Tech Est d'être partenaires de cette saison 4 de Charbon. Merci à toi encore une fois. On se retrouve très rapidement.
À bientôt.
Ciao.